Bienvenue sur le nouveau podcast La Jeune Chambre de Victoriaville. Moi, c'est Marie-Pascale Fortier, je suis membre du conseil d'administration, responsable du comité formation, mais je suis aussi une mordue de com. Je suis avec Pierre-Yves Blais du studio Le P aujourd'hui et on est très fiers de vous présenter ce nouveau projet qui a été rendu possible grâce à la participation financière de la branche Mauricie-Centre du Québec de l'Ordre des comptables professionnels agréés du Québec. C'est un financement qu'on a obtenu à la suite de notre titre de Jeune Chambre de l'année en 2022 au gala Les Grands Prix de la relève d'affaires du regroupement des jeunes chambres du Québec. Je vous souhaite une bonne écoute. Aujourd'hui, on accueille Didier Poisson, qui est avocat en droit des affaires et associé au groupe RDL, avocat et notaire. Bonjour Didier.
Bonjour.
Donc aujourd'hui, on jase ensemble des différents types de formes juridiques qui existent pour une entreprise. J'aimerais ça qu'on démystifie ça ensemble un peu. Est-ce que tu peux me parler un petit peu des trois principales formes juridiques qui existent quand une personne veut se lancer en affaires?
Oui, mais effectivement, il y a plusieurs formes juridiques, là, mais il y en a vraiment trois principales, je pense, pour monsieur, madame, tout le monde. L'entreprise individuelle, en fait, ça va de soi, là, c'est une personne seule qui exploite son entreprise. C'est souvent l'avenue que vont prendre les travailleurs autonomes lorsqu'ils commencent. Ensuite, il y a la société par action, c'est vraiment l'incorporation. Donc, là, il peut avoir, ça peut être une personne seule, ça peut être un travailleur autonome, comme ça peut être un bel média ou qu'il y a plusieurs centaines d'actionnaires.
Donc ça, la société par action, en fait, c'est ce qu'on appelle l'incorporation.
Absolument, c'est ça. Puis ça permet de faire plusieurs choses, ça permet d'ouvrir dans plusieurs domaines. Donc, c'est souvent, je dirais que c'est celle qu'on retrouve le plus souvent pour les entrepreneurs et les entreprises. Puis finalement, il y a la société en nom collectif, qu'on voit peut-être un petit peu moins souvent. Collectif, ça le dit, là, donc ça implique qu'il y ait au moins deux personnes. Ça peut être dans des proportions de 99%, 1% à l'autre, mais il faut absolument avoir deux personnes. Il y a aussi la société en nom collectif à responsabilité limitée, qui, elle, s'applique pas mal plus pour les professionnels, là, tels les avocats, les comptables.
Puis quand on veut se lancer en affaires puis qu'on se retrouve devant toutes ces possibilités-là, comment on fait pour choisir notre forme juridique? C'est quoi les critères sur lesquels on doit se baser?
Bien, je pense qu'à la base, c'est important d'avoir des bons conseillers, soit juridiques ou comptables. Puis ça, c'est une question qui est justement un peu juridique, un peu comptable. Je suis pas comptable, je suis vraiment juste avocat, donc je suis capable de répondre en fonction de l'aspect juridique. Je vais aussi donner des pistes de solutions pour l'aspect comptable et fiscal, mais ce n'est pas mon domaine de pratique. Donc, je pourrais faire un professionnel dans ce domaine-là si ça avait des questions plus poussées. Mais c'est sûr que comme travailleur autonome, tu n'as pas de voile corporatif. Donc, si par exemple, tu fais une erreur ou tu es poursuivi, c'est vraiment ton patrimoine personnel qui est engagé. Versus si tu as une société par action, elle était protégée par quelque chose qu'on appelle le voile corporatif. Donc, techniquement, si tu n'as pas cautionné de prêt, par exemple, auprès des créanciers ou auprès des fournisseurs, mais ils ne peuvent pas venir te rechercher personnellement, fait que ta maison, ton patrimoine, ta voiture est protégée. Donc ça, c'est un des aspects là, très intéressants de la société par action. Mais tu sais, je pense qu'il faut gagner un certain revenu pour que ça vaille la peine de s'incorporer, à cause qu'il y a quand même des frais qui sont rattachés à ça, l'incorporation puis le maintien à chaque année. Tu as certaines obligations légales de faire, par exemple, des assemblées annuelles à chaque année pour une société par action, puis elle doit aussi faire des états financiers. Fait que les coûts sont plus importants pour une société par action que pour une entreprise individuelle. Puis ensuite, il y a toute la question de quand tu es entrepreneur, bien, tu n'as pas le choix de t'imposer. Quand tu es entrepreneur, entreprise individuelle, tu n'as pas le choix de t'imposer sur la totalité des revenus que tu fais dans l'année. Versus que si tu es une société par action, mais là, il y a plusieurs avenues qui sont possibles. Tu peux garder certains revenus dans la société pour ne pas t'imposer totalement. Tu peux te déclarer un dividende, tu peux te payer en salaire, qui, des fois, peut être intéressant à cause que le taux d'imposition est souvent moins élevé sur un dividende que sur un salaire. Mais là, il y a toute la notion, par exemple, si tu vas avoir des enfants, mais là, ça peut être intéressant d'avoir un salaire pour avoir le droit au RQAP, etc. Donc, c'est vraiment, tu sais, il faut que tu t'assoies selon vraiment ta situation, voir. Est-ce que c'est pertinent de le faire à ce moment-ci? Est-ce qu'on attend un peu? Mais je pense que c'est de chercher, de demander des conseils à des professionnels dans le domaine. C'est ça, la meilleure idée.
Tu soulignais tantôt qu'il y a différents types de professionnels, qu'il y a des comptables, des avocats. Mais c'est quoi le rôle spécifiquement d'un avocat en droit des affaires dans une décision comme celle-là?
Ben en fait, nous, souvent, on va être... Je dirais que quand les clients viennent voir, la décision est un peu prise, à savoir que là, on veut s'incorporer, fait que là, c'est nous qui s'occupe de tout ce qui est l'incorporation, le registre des entreprises, on prépare le livre des minutes. On peut aussi faire la demande de numéro de taxe, mais souvent, c'est plus les comptables qui le font. Mais je dirais que nous, à partir de là, on est capable de les accompagner pour, mettons, tenir le livre à jour. Puis si jamais ils veulent faire une acquisition d'une entreprise, ou si par exemple ils étaient entrepreneurs individuels puis ils ont certains actifs, des équipements, mais là souvent il y a un principe fiscal qui dit qu'on peut rouler les équipements là, dans la nouvelle société. Fait que là c'est nous qui va faire toute la paperasse juridique qui vient avec ça.
Justement, est-ce que ça se modifie en fait la forme juridique quelques années ou quelques mois après s'être lancé?
Ben oui, puis c'est souvent ce qu'on voit là, les travailleurs autonomes souvent vont commencer en étant entreprise individuelle, puis après quelques années ils voient que ça serait intéressant de s'incorporer, donc ils font le move à ce moment-là. Puis là, c'est un peu ce que je dis souvent, s'ils ont des actifs intéressants, mais là on peut faire ce que je disais, le roulement pour mettre les actifs dans la Inc. Sinon ils font juste incorporer puis continuer à exercer là, leur service via la société par action. C'est un peu plus rare qu'on voit le contraire, par exemple, mais rien n'empêcherait quelqu'un, par exemple, qui s'est incorporé, il décide après X années que ben, finalement, il n'y avait pas besoin d'une Inc., ben, on procède à la liquidation de la société puis il continue à exploiter individuellement.
Donc ça, les critères qui entrent en ligne de compte de passer d'une forme à l'autre, on pense à quoi? L'équipement, on pense au chiffre d'affaires?
Un des principaux, c'est effectivement le chiffre d'affaires. Qu'est-ce qui est intéressant avec une société par action, c'est que si tu as un chiffre d'affaires important puis tu as des revenus plus importants que ce que tu as besoin pour vivre, mais le reste, tu vas pouvoir le laisser dans ta société par action et pas t'imposer là-dessus. Faire ça, c'est que si tu es en travailleur autonome, entreprise individuelle, puis que tu as des revenus de 500 000 par année, mais tu vas être imposé sur les 500 000. Si c'est dans la Inc., ben là, tu peux laisser, par exemple, juste te sortir en revenu 100 000 puis laisser le 400 000 qui reste dans la société puis être imposé plus tard quand on aura de besoin. Puis aussi, ce que j'ai dit un peu tantôt, là, c'est le voile corporatif qui est quand même intéressant. Si tu fais des activités dans un domaine qui sont propices aux poursuites à cause que c'est dans des services, par exemple, que tu rends au public, mais là, c'est intéressant d'avoir le voile corporatif pour protéger ton patrimoine familial.
Mm-hmm. Et ça, le transfert d'un à l'autre, est-ce que ça peut se faire à n'importe quel moment dans l'année ou c'est idéal de le faire pour garder la même année financière que quand on est travailleur autonome, donc de décembre à décembre, ou s'il y a d'autres stratégies à apprendre?
Il n'y a pas vraiment de moment parfait quand c'est une société par action pour avoir une fin d'année n'importe quand dans l'année. C'est tout le temps une fin de mois, là, c'est pas tout le temps, mais la plupart du temps, c'est une fin de mois, donc un 31 décembre, ça peut être un 30 juin, ça peut être un 31 mars, donc il n'y a pas vraiment de moment parfait. C'est sûr que c'est peut-être plus simple le faire en fin d'année quand tu viens de finir ton année comme travailleur autonome, puis commencer une Inc. par exemple à partir du 1er janvier, mais ça n'a pas des impacts significatifs.
Est-ce qu'on est obligé d'être une société par action ou d'être incorporé pour avoir des employés?
Ben oui, à cause de travailleur autonome, ça le dit, c'est une entreprise individuelle, donc tu ne peux pas avoir d'employés, tu ne peux pas payer de déduction à la source. Donc si tu veux avoir des employés, tu n'as pas le choix d'être soit une société par action, soit une société en nom collectif ou un autre type d'entreprise qu'on n'a pas discuté. Mais un travailleur autonome en tant que tel ne pourrait pas avoir des employés. Ce qu'il peut faire, par exemple, un travailleur autonome pourrait embaucher un autre travailleur autonome, avoir une entente de service avec un autre travailleur autonome, mais il faudrait que ça soit deux travailleurs autonomes, et non, ça ne pourrait pas être un salarié.
OK, donc c'est vraiment sous la forme de sous-traitance. Si un travailleur autonome ressent un besoin là, d'avoir une autre personne qui travaille avec elle.
Exactement.
Didier, maintenant, si on souhaite s'associer avec quelqu'un dans le cadre de nos activités, vers quelle forme juridique on doit se diriger?
Moi, je dirais que la plus intéressante, celle qui est la plupart du temps utilisée, c'est la société par action. Donc, ce type de société-là permet de faire un peu la répartition des actionnaires comme qu'on veut. Fait qu'un actionnaire peut avoir un type d'action en particulier, un autre un type. Si c'est 50-50, c'est 50-50. C'est sûr qu'il y a des risques rattachés à s'associer avec quelqu'un dans une société par action. C'est pour ça que nous, à la plupart de nos clients, on conseille de faire une convention d'actionnaire. Ça vient protéger pour plusieurs situations. Les gens ne le pensent pas, mais disons que « Ah, mais non, on s'entend super bien, il n'y aura pas de problème ». Oui, là, c'est beau, vous venez vous associer, tout va bien, mais ça ne veut pas dire que ça va être comme ça pendant 10 ans. Puis une autre situation, par exemple, si un des deux actionnaires qui décède, c'est souvent très problématique quand il n'y a pas de convention d'actionnaire, parce que là, c'est la succession qui se retrouve à être actionnaire de la société. Donc, là, souvent, oui, la succession est intéressée à acheter à vendre ses actions à l'autre actionnaire qui est encore en vie, mais encore faut-il que l'autre actionnaire veuille le faire puis aille des sous pour le faire. Fait que là, il y a tout... C'est pour ça que souvent on suggère à nos clients, dans le cadre d'un partnership comme ça, de prendre des polices d'assurance vie pour assurer de protéger cette situation-là. Il y a aussi toute la question de, là, tu mets ton temps dans une entreprise, tu t'investis avec un partenaire. S'il y en a un qui quitte du jour au lendemain, ce serait le fun qu'il y ait des clauses de non-concurrence pour protéger la société, pour pas que l'autre puisse faire concurrence à la société dans laquelle les deux vous investissez votre temps et votre argent. Ensuite, on vient aussi souvent dans une convention d'actionnaire protéger des cas où on appelle ça des cas de défaut. En fait, si, par exemple, un actionnaire se retrouve en prison, il commence à faire de la fraude, il démissionne comme employé, Parce que souvent, c'est des situations où s'il n'y a pas de convention entre actionnaires, du jour au lendemain, il y a un des actionnaires qui démissionne, il arrête de faire ça pourquoi il est utile à la société. Ben oui, tu peux, il a démissionné, c'est beau, tu n'as plus de salaire à payer, mais il reste encore actionnaire puis il ramasse encore 50 % des profits. Il n'y a pas vraiment de porte de sortie autre que si c'est prévu dans une convention entre actionnaire. Pour revenir à la question du départ, la meilleure façon de le faire, c'est via une société par action, mais je pense que quand vous le faites, ce serait vraiment pertinent de rencontrer des professionnels pour mettre en place une convention entre actionnaire. J'ai vraiment passé en surface les points importants, mais il y a vraiment d'autres aspects que la convention là, prévoit.
En gros, il y a tout plein de choses auxquelles on pense pas nécessairement quand on veut s'associer, puis c'est ça, c'est pour cette raison-là que c'est important d'aller voir.
Exactement, puis c'est pertinent de le faire aussi au départ, parce que là, justement, vous entendez bien, c'est plus facile de discuter de ces points-là, de si jamais il arrive quelque chose qui fonctionne pas, que quand vous êtes déjà dans une situation où vous entendez mal, puis où il y en a un qui veut partir, là, c'est souvent un peu plus touché.
Merci beaucoup, Didier, pour ton temps.
Plaisir.
Merci aussi à Studio Le P à la réalisation, et on se retrouve une prochaine fois pour un autre épisode.